SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre programme en français sur la radio SBS. Nous sommes le dimanche 5 mai 2024. Il est 13h, je m'appelle Marianne Murat et nous allons passer une heure ensemble. Comme tous les dimanches, on commence avec le personnage de la semaine. Pour le personnage de la semaine, avec Valentine Saboureau, aujourd'hui nous allons parler de Murawa Johnson, une jeune femme weirdie de 29 ans dont l'engagement vient d'être récompensé par le prix Goldman de l'environnement. Elle prend la suite de plusieurs figures australiennes dont Bob Brown, tout premier récipiendaire de ce Nobel vert en 1990. Bonjour Valentine.
Bonjour, bonjour à tous. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais c'est une militante très engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique et les droits des peuples premiers que nous allons parler aujourd'hui. Murawa Johnson, jeune weirdie de la nation Birriguba dans le Queensland, vient en effet de recevoir le prix Goldman de l'environnement, considéré comme le Nobel vert. C'est une reconnaissance prestigieuse qui salue notamment sa victoire récente contre le développement de la mine de charbon de Warata, projet porté par Clive Palmer.
Le prix Goldman, Valentine, ce n'est pas nouveau, il existe depuis 1989.
Oui, en effet, il a été créé par deux philanthropes américains, Richard et Rhoda Goldman, qui souhaitaient récompenser des héros ordinaires qui font des choses extraordinaires. Ce sont donc des activistes issus de la base et capables d'inspirer le monde par leurs actions et souvent au prix de grands risques pour leur sécurité. Le prix est en réalité décerné à 6 figures notables, soit une personne par continent, Afrique, Asie, Europe, îles et États insulaires, Amérique du Nord et conjointement Amérique centrale et Amérique du Sud. Outre un trophée en bronze en forme d'ouroboros, c'est un serpent qui se mord la queue, symbole d'éternel retour et donc de planète qui se régénère, les récipiendaires se partagent une somme importante. Ils ont accès à un vaste réseau. Ils peuvent également accéder à des bourses et surtout d'un soutien légal si nécessaire. Évidemment, c'est un sacré coup de projecteur. Les cérémonies de remise des prix ont généralement lieu à une date proche du jour de la Terre, en présence d'un parterre de personnalités engagées. Par le passé, on y a vu et entendu Al Gore ou Jane Goodall, ainsi que de nombreux artistes. Cette année, la cérémonie éco-friendly du prix Goldman de l'environnement s'est tenue le 29 avril à San Francisco.
Et Murawa Johnson n'a pas pu se rendre à la remise de son prix puisqu'elle attend son deuxième bébé.
Absolument, Murawa Johnson cumule les statuts de femme, mère, militante, environnementaliste et aborigène, les deux derniers qualificatifs allant de pair. Dans son combat gagné contre le milliardaire et mania minier Clive Palmer en 2023, elle a fait valoir les risques encourus par l'environnement et par son peuple si l'exploitation de la mine de Ouarata allait de l'avant. En gagnant le procès qu'il a opposé à Palmer, elle a évité la destruction de 8000 hectares de la réserve naturelle de Bimble Box, où nichent 176 espèces d'oiseaux et 45 sortes de vertébrés, des lézards ou wallabies en passant par les serpents. Et ce sont aussi 1,58 milliard de tonnes de CO2 qui ne seront pas émis dans l'atmosphère. On l'écoute.
We've had our freedom fighters from day one. They did all the hard work maintaining a First Nations cultural identity. I love my culture and I love my people. I think that there's a lot to be learned from our ways of being. Our job is to speak for the land because it can't speak for itself.
Murawa Johnson a commencé à militer très jeune et continue de militer. Hein.
Elle raconte qu'elle a fait l'expérience du racisme à l'âge de 7 ans sur la terre de ses propres ancêtres à Nebo. Dès l'âge de 19 ans, elle s'est investie contre le projet de mine porté par Adani, sans succès. L'ONG Youth Verdict, qu'elle co-dirige et pour laquelle elle vient de recevoir avec Monique Jeffs le prix Jules Voltaire des droits humains décerné par la bibliothèque du Victoria, s'est donné comme mission de continuer à faire entendre la voix des peuples aborigènes sur tous les projets de mine en cours, en Australie évidemment, 32 rien que pour Clive Palmer. Cela laisse entrevoir la masse du travail à venir. Dans ce combat global, elle n'est heureusement pas seule. En 2024, le prix Goldman pour l'environnement a en effet salué 5 autres militants à suivre. Retenez bien leurs noms, Marcel Gomez au Brésil, Alok Shukla en Inde, Teresa Vicente en Espagne, Andrea Vadaour aux USA et le duo Sinegugu-Zoukoulou Nonlebutuma en Afrique du Sud. Bravo à eux.
Merci beaucoup Valentine Sabouraud.
Papa, il fait gris sur le monde.
Mais il fait beau sous la pluie.
Voilà la chanson « Il fait beau sous la pluie » de Super Mojo en duo avec Pat Kala. Cette nouvelle chanson sur SBS French qui fait partie de notre sélection musicale du mois de mai. Une très courte pause messieurs, dames et un épisode d'Europa Voice avec Christophe Mallet et Nathanaël Bloch. Ensemble, ils reviennent sur le discours d'Emmanuel Macron prononcé à la Sorbonne. Le président français parle de l'humanisme européen comme un axe d'avenir pour l'Europe. Pour combien de temps? Eh bien, réponse tout de suite.
Deuxième sujet de cette Europa Voice aujourd'hui, et on va parler du discours d'Emmanuel Macron, récemment d'ailleurs, qui a aussi un accent d'Europe. Et ce discours est toujours d'actualité, même si on est à plusieurs jours après qu'il ait été fait, parce qu'il y a eu des moments clés, des moments forts dans ce discours d'Emmanuel Macron.
Acte 2, Christophe, de la Sorbonne, et un retour remarqué d'Emmanuel Macron à la Sorbonne pour ce discours sur l'Europe. Hein. C'est d'abord, pour le rappeler à nos auditeurs d'SBS et d'Europa Voice, c'est une réponse à son premier et historique, un discours à la Sorbonne. Là, le président, qui avait lieu en 2017, pardon, là, le président, il s'est vraiment projeté vers l'avenir de l'Union européenne. C'était le but, hein, c'est aussi à des fins peut-être personnelles. Et il a articulé un plan assez clair, Christophe, en trois axes, autour de trois mots-clés. Il aime bien ça, le président français. C'est puissance, prospérité et quand même un peu d'humanisme. Pour rappeler les vases de l'Europe.
Ça rassure tout le monde.
Ça rassure tout le monde. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça aussi que je le dis dans ce sens-là, c'est que d'abord, il y a quand même un besoin de rassurer au niveau de l'Union européenne. Et c'est pour ça que finalement, les mots-clés les plus importants sont ceux de puissance et de prospérité, à plein d'égards. D'abord, de puissance, parce qu'Emmanuel Macron a montré et a voulu montrer que l'Europe a pu être une véritable puissance est décisive à des moments clés. Il a rappelé notamment la mise en commun des vaccins pendant le Covid. Il a parlé de la réponse européenne post-Covid. Il a parlé de l'engouement, en tout cas, de la coordination européenne par rapport à l'Ukraine. Donc vraiment, l'Europe a agi en tant que puissance. Mais cette puissance, Christophe, elle est encore limitée. Et puis là, on est revenu dans les sempiternels débats d'une armée slash d'une défense européenne. Et ce qui était intéressant, je trouve, c'est qu'Emmanuel Macron était quand même assez offensif. C'est-à-dire qu'on ne se cache plus du tout des raisons pour lesquelles il va falloir une puissance. Ça peut être une puissance d'abord économique, technologique, slash face aux grands noms et grandes puissances américaines et chinoises notamment. Et ça fait bien la boucle avec les récentes lois sur l'intelligence artificielle, sur les données personnelles, etc. Avoir des GAFAM sur le sol européen. Et puis, c'était aussi une réponse beaucoup plus, j'allais dire, martiale de puissance par rapport notamment la menace chinoise. Et puis là, on a vu le Macron de l'Indo-Pacifique et de cette envie de construire une réponse alternative, une route de la soie alternative avec d'autres partenaires pour justement faire face à cette puissance chinoise.
Mais on n'a pas vraiment vu un Macron en campagne pour son camp de la majorité présidentielle pour les élections européennes. On a plutôt vu un Macron en tant que chef d'État et non pas trop penchant sur aider la tête de liste de son parti de la majorité présidentielle aux élections. Il était au-dessus de ça presque.
Oui, pas du tout. Même je suis même plus catégorique. Ouais, il a pas du tout joué le jeu de son parti politique.
C'est un signe d'abandon.
Non, mais il y a bon, d'abord en fait il y a aussi j'allais dire un peu de réel politique, c'est-à-dire que c'est quand même c'est son, je dis pas que c'est après moi le déluge hein, mais c'est son dernier mandat.
Mais j'allais justement moi j'ai peut-être l'esprit un peu twisté, mais on entend aussi pas mal parler du fait que s'il y a une élection à perdre à l'extrême droite, c'est celle-là. Vaut mieux pas perdre la prochaine. Vaut mieux perdre celle-là. Donc, est-ce que aujourd'hui on perd un petit peu, on perd un peu de confiance en le résultat de cette élection qui arrive, l'élection européenne, ou est-ce que on veut se placer au-dessus des débats quand on est Emmanuel Macron?
Bah, il y a ça déjà. Il y a le président de la République. Il est au-delà des partis. Il s'exprime plutôt sur les domaines régaliens. Alors là, c'était un programme européen, mais tout de même, encore une fois, hein, la puissance, la prospérité économique, on est vraiment plus sur du supra, sur quelque chose qui est au-delà de la politique quotidienne, comme c'est le cas, enfin comme ça l'est prévu dans la Constitution française pour la France, entre le président et le Premier ministre. Après, il y a aussi une réalité politique. Christophe, on l'a mentionné dans cette première partie d'Europa Voice, Valérie Ayer, la tête de liste de la majorité présidentielle slash Renaissance, elle patauge autour des 10% quand le leader d'extrême droite en fait trois fois plus, quand même la gauche de Glucksmann en réussissant à faire exploser la NUPES en fait près de 15%. Renaissance est vraiment reléguée à ce que la droite est encore, c'est-à-dire quelque chose de difficile à reconstruire, en tout cas pour Renaissance, là, à construire pour les élections européennes. Donc il y avait aussi ce principe quand même de réalité où il peut même pas, le président de la République ne peut même pas surfer sur les bons sondages que son parti aurait. Donc je pense qu'il y a aussi un peu de ça, c'est-à-dire qu'il n'avait finalement peu d'intérêt. Et puis, encore une fois, je crois qu'il n'était pas attendu sur ça. Comme c'était une réponse au discours, ou en tout cas à la suite du discours de 2017, on était plutôt en train de le comparer à ça, plutôt que vraiment de rentrer en campagne. Et puis je ne suis pas non plus persuadé que ce soit son rôle. En tout cas, il n'a pas aidé et le camp présidentiel ne peut absolument pas bénéficier d'un halo positif ou bénéfique de ce discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne.
Il y aura un acte 3 où là c'était l'acte 2 et on a tiré le rideau sur ce qu'il voulait dire sur ce discours. Vous parlez du fait que c'est la deuxième partie du discours et la suite de 2017. Forcément, il n'y aura pas un autre mandat, en tout cas pas tout de suite, parce qu'il aura le droit de se représenter aux élections présidentielles, mais pas dans la foulée. Il a le droit à faire plusieurs mandats, mais que deux d'affilée, juste pour être bien strict sur la législation en France. Est-ce qu'aujourd'hui, on verra, il y aura un troisième discours? Est-ce qu'on a laissé la porte ouverte à ça, ou vraiment c'est partie 1, partie 2, il n'y a pas de saison 3?
Je le crois, Christophe. Enfin, je ne crois pas à un acte 3. Et je crois d'ailleurs que même dans le déroulé de ce discours, dans j'allais dire les exemples concrets associés à tous ces mots de prospérité, de puissance et d'humanisme, je crois même que la partie humaniste, la défense de cet humanisme européen qui nous lie, pour citer Emmanuel Macron, je crois que c'était l'ouverture, en fait, dans une bonne rédaction, c'était l'ouverture de la conclusion, pour justement dresser un petit peu un horizon, j'allais dire... des potentialités futures pour cette Europe et de vraiment rappeler les valeurs et ce qui doit lier en fait les pays européens au-delà justement des critères économiques. Donc je crois que non, je crois que Emmanuel Macron a tiré le rideau sur ses discours de la Sorbonne, et à moins qu'il y ait vraiment un chamboulement et d'autres choses extrêmement fortes qui vont être adaptées par l'Europe. Mais encore une fois, ça va être un nouveau Parlement, une nouvelle commission qui va s'installer. Donc je crois pas, non, je crois pas du tout à un discours 3. Je crois que c'était, voilà, c'était aussi une manière de clore un chapitre plutôt positif pour Emmanuel Macron, parce qu'il faut le rappeler, autant il y a eu des critiques dont on a beaucoup parlé dans ce studio d'Europa Voice sur la scène nationale. On a fait plein de podcasts sur les gilets jaunes, sur les difficultés économiques, etc. Autant il est vrai que sur les scènes européennes et internationales, Emmanuel Macron ressort comme un, j'allais dire, un président.
C'est plutôt un sans faute. Hein.
Oui,
c'est presque un sans faute.
En tout cas, voilà, c'est presque un sans faute. En tout cas,
là, il y a un vrai
leadership.
Ouais, on prend pas parti. C'est juste en tant qu'analyste politique, c'est presque un sans faute au niveau européen.
C'est effectivement, Emmanuel Macron a su tirer son épingle du jeu sur ces scènes européennes et internationales. Donc, c'était aussi une manière pour lui de, voilà, 7 ans après ce premier discours sur la Sorbonne, à la fois de faire le bilan, mais aussi de dresser les futurs enjeux et ce qui attend l'Union européenne post-élection en juin prochain.
Vous savez quoi ? Affaire à suivre.
Affaire à suivre, Christophe.
Merci, Nathanaël.
Merci beaucoup.
Seul chez toi, tu restes là, tu n'oses pas. Même à ton meilleur pote, qu'est-ce qu'il dira ?
Peters sur les ondes de SBS Audio avec le titre Multicolore. Pour ceux qui ont écouté notre émission d'hier, vous avez entendu la première partie de notre podcast L'Histoire cachée de l'Australie consacrée à Peter Garrett. Peter Garrett, c'est une rockstar ici en Australie. Souvenez-vous, il défendait la cause aborigène et l'environnement notamment au travers de ses titres. Eh bien, après ses années sur scène, il est venu député du Parti travailliste en 2004, puis plus tard ministre. Deuxième partie de ce portrait signé Grégory Pless et Romain Fati.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Si tous ces discours très politiques portés par Midnight Oil, ils étaient à l'époque où ils sont sortis contestataires à contresens du vent dans lequel allait la société, ou au contraire, est-ce qu'ils accompagnaient ce mouvement ? Donc pour la cause aborigène, je comprends qu'ils s'inscrivent plutôt dans un mouvement plus général. Est-ce que c'est vrai également des deux autres grandes causes qu'ils défendent, donc l'opposition à la guerre et au nucléaire en particulier, et la question de la protection de l'environnement qui peut-être dans les années 80 faisait moins consensus qu'aujourd'hui ?
Oui, totalement. Alors, je serais tenté de répondre les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que dans Midnight Oil, qui séduit énormément d'Australiens, vous avez tout un tas de positions. Certaines sur lesquelles on peut se reconnaître et d'autres peut-être moins, ce qui fait que c'est pas un groupe totalement idéologique, c'est-à-dire ça peut pas nécessairement être classé à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Vous voyez, ils ont plusieurs colorations, et ces colorations font que sur la cause aborigène, effectivement, ils s'inscrivent dans un mouvement plus global, hein, qui a commencé avec le référendum de 67, et donc finalement ils sont progressistes, mais ils accompagnent un mouvement plus général de la société australienne. En revanche, sur la question par exemple de l'engagement australien aux côtés des Américains et sur le danger que peuvent représenter les guerres américaines ça et là au cours de la seconde moitié du XXe siècle, là, ils sont plutôt en opposition. Ils sont en opposition avec le statu quo australien, qui est un soutien total aux États-Unis. Alors, que les Australiens, en termes de population, soient d'accord ou non, ça, c'est une autre question. Mais c'est quelque chose qui ne passait pas très bien à l'époque, puisque les États-Unis sont vus comme le principal allié et protecteur de l'Australie dans la région. Alors que Midnight Oil voit ça comme un peu une forme d'impérialisme contemporain. Donc là-dessus, ils sont plutôt isolés. Sur l'uranium et sur la question du nucléaire, en revanche, là, ils sont plutôt représentatifs, peut-être un peu plus, comment dirais-je, un peu plus prononcé, mais à peu près représentatif de la majorité des Australiens sur le sujet dans les années 80, 90. Et on retourne du côté novateur quand on se penche sur la question de l'environnement, parce que c'est un des premiers groupes qui, effectivement, fait de la question environnementale un de ses sujets de prédilection. Donc vous avez plusieurs chansons qui traitent de cette question-là. Non seulement plus récemment les inondations, le réchauffement climatique, mais à l'époque se pose déjà la question de la pollution, en fait. Et donc, je ne sais pas si on a le temps d'en parler, mais il y a une chanson d'eux qui est très connue, qui traite en fait de l'amiante.
C'est
Et donc,
Blue Sky Mine, c'est ça?
totalement, voilà. Et donc, c'est une chanson qui est assez particulière à écouter parce qu'en fait, on a l'impression d'entendre un discours politique, parce que c'est un discours politique, mais si vous voulez, c'est mis en chanson d'une façon qui est quand même très. Ça laisse pas beaucoup de place à l'analyse, c'est très direct. Il s'agit en fait, Blue Sky Mining, d'une petite ville qui a depuis été fermée parce que vous avez à peu près 50 000 hectares, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que 50 000 hectares autour de cette ville qui est contaminée, du fait de l'activité minière pendant plusieurs décennies pour extraire de l'amiante. Sur les à peu près 20 000 travailleurs qui ont travaillé dans ces mines pendant plusieurs décennies, vous en avez à peu près 10 000, 2 000, pardon, donc à peu près 10% qui sont morts. Hein. Donc là, vous avez une dénonciation de les dommages qui ont été causés à l'environnement par la destruction des sols, par les pollutions, les dommages que ça crée par rapport aux hommes hein, et à ceux qui sont morts. Et à plusieurs reprises dans la chanson, on les excuse en disant qu'il s'agissait de, voilà, de mettre du pain sur la table, d'apporter à manger à la maison, et que, en fait, ces travailleurs sont bloqués par un système d'exploitation. Il est mentionné l'entreprise qui possède ces mines, qui est en fait une énorme industrie du sucre. Et donc, Peter Garrett et le groupe dénoncent le poids des actionnaires, le profit. Et là, on est quand même au début des années 80. Donc, ce sont des choses qui sont assez récurrentes dans les chansons un peu activistes et engagées aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est très novateur de parler d'actionnaires et de profits dans une chanson. Et c'est un succès.
On a beaucoup parlé jusqu'à présent du répertoire et à raison hein, de Midnight Oil, à l'intérieur de lequel on trouve beaucoup de tubes. On a évoqué certains d'entre eux ici. Mais c'est l'un de ces groupes qui est également très connu pour ses performances scéniques. Ce sont de véritables bêtes de scène. Peter Garrett en particulier, qui a un style de danse eh bien unique en son genre. Hein. Je vois pas comment le désigner autrement. Ils ont réalisé donc des performances vraiment de légende au cours de leur carrière. Ils ont aussi mené un certain nombre de coups d'éclat, mais le plus connu d'entre tous, c'est lors de leur concert pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Sydney en 2000.
Oui, tout à fait. Alors, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas le style de danse de Peter Garrett, je les invite très fortement à aller regarder ses clips parce que c'est quelque chose. Alors, c'est pas Mick Jagger, mais en termes d'activité physique, on s'en rapproche. Hein, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le côté politique. Et vous faites bien de rappeler cette scène qu'ils ont faite lors des JO de Sydney en 2000, hein, c'est une époque où c'est télévisé en direct, donc il passe devant quasiment 1 milliard de personnes, ce qui est absolument gigantesque. Et c'est un moment, hein, 2000, où l'Australie a changé de gouvernement, est passé un gouvernement à droite, très à droite et très radical, qui considère qu'en fait la réconciliation avec les aborigènes, c'est pas le cœur du sujet, c'est pas très important, et que surtout il ne faut pas rendre les terres. Donc, après une période progressiste dans les années 70, 80, 90, il y a un retour de bâton qui s'opère avec le gouvernement, les gouvernements de John Howard, parce que c'est le premier ministre qui a servi le plus de termes de mandat, pardon, après Bob Menzies, donc il reste quand même 11 ans au pouvoir. Et ce que fait Midnight Oil, c'est qu'il chante effectivement cette chanson, hein, Beds Are Burning, qui est une chanson qui est bon, dans les années 2000, connue de tous quasiment en Australie et de beaucoup dans le monde entier. Donc, cette chanson est choisie pas nécessairement parce qu'elle est politique, mais parce qu'elle est très connue. En revanche, le geste politique, c'est que sur scène, tous les membres du groupe arrivent avec un t-shirt où il est écrit « Désolé » ou « Excusez-nous »,« Pardon »,« Sorry ». Et donc, « Sorry », ça s'adresse évidemment aux populations aborigènes. C'est une manière de dire « On est désolé pour ce qui s'est passé, on est désolé pour les massacres, on est désolé pour le vol de la terre ». Et tout ça est en opposition totale avec les positions du gouvernement Howard. Donc, c'est vraiment un coup médiatique de monopoliser la télé devant près d'un milliard de personnes lors de l'ouverture des Jeux Olympiques, qui sont généralement des événements politiques. C'est pas que du sport, les Jeux Olympiques.
Bien sûr, ouais. Et la politique, la carrière politique de Peter Garen, ce sera ce qu'on examinera de plus près dans un deuxième épisode qui arrivera après celui-ci. En tout cas, merci déjà Romain Fati pour la première partie de cette biographie, la carrière musicale de Peter Garrett, sur laquelle on en sait désormais beaucoup plus. Merci et donc à très bientôt pour la suite de cette histoire.
Merci et à très bientôt. Bonne journée Grégory.
En français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Stromae, le chanteur belge sur SBS Audio avec son titre Papa Outé. Allez, dernière partie de cette émission du dimanche 5 mai, rencontre avec le trio Karénine qui nous parle de sa venue à Sydney mais également de la création du trio et de leur chemin jusqu'à aujourd'hui. Une interview signée Christophe Mallet.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Eh bien, aujourd'hui, dans le programme en français sur Radio SBS, nous avons le plaisir d'avoir le trio Karénine avec nous. Bonjour, et on va parler de musique classique avec un twist un petit peu moderne. Mais d'abord, je vais vous laisser vous présenter. Vous êtes trois, d'où le mot trio.
Oui, tout à fait. Panova Kuider au piano,
Louis Rod au violoncelle et Julien Dudegar au violon.
D'accord. Alors, trio Karénine, déjà, c'est un nom qui évoque pas mal de choses. Vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'il y a dans la genèse du nom, le trio Karénine?
Oui, bien sûr. Donc, le trio a été fondé il y a une quinzaine d'années à Paris. À l'époque, on était un petit peu plus jeunes musiciens, mais déjà très passionnés de littérature, et notamment de littérature russe. Et on cherchait un nom de groupe, puisque quand on crée un groupe de musique de chant comme ça, il faut pouvoir se nommer, entre guillemets, pour pouvoir donner une existence réelle à l'entité du groupe, c'est-à-dire les personnes en tant que groupe. Et on a eu cette idée de tous se référer à un personnage de fiction. Et donc voilà, le choix s'est porté sur le personnage d'Anna Karénine dans le roman d'Anna Karénine, sans forcément se concentrer sur le personnage d'Anna en tant que tel, mais plutôt aussi le roman dans tout ce qu'il nous apporte, dans l'écriture de Tolstoï, dans cette humanité qui est très présente chez lui, ce rapport aussi à la nature qui existe dans ce roman et puis dans tous ces personnages.
D'accord. Alors, on sait que la Russie, c'est vraiment un pays de très forte culture musicale, notamment de musique classique. C'est un pays qui vous inspire aussi. Vous parlez là de Tolstoï, d'Anna Karénine. Ça va au-delà de ça?
Bien sûr. Alors, en termes de, comment dire, de tradition musicale russe, on est extrêmement gâtés, évidemment. En termes aussi de littérature russe, je pense qu'on s'en est bien abreuvé. Notamment, on a une collaboration très régulière avec un compositeur français qui s'appelle Benoît Menute et qui nous a dédié un trio qui s'appelle les Allées sombres et qui est en fait inspiré d'une nouvelle d'Ivan Bounine Voilà, c'est, ça n'est qu'un des exemples. Évidemment, au répertoire, nous avons un panthéon de trios assez nombreux, très intéressants, dont le trio de Tchaïkovski. Mais aucun à notre programme de tournée en Australie, qui se concentre plutôt sur un programme français, avec également l'archiduc de Beethoven et un trio de Tourina.
D'accord. Alors oui, c'est vrai que on va faire une petite blague, mais c'est vrai que la Russie, c'est pas super à la mode en ce moment. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, alors évidemment, nous, quand on a créé le trio il y a 15 ans, on n'était même pas dans un état d'esprit russophile, entre guillemets. On était plutôt dans une gestion un petit peu plus globale de ce que de la culture, de la grande culture, de la beauté. Et il s'est trouvé qu'on s'est attaché à la figure de Léon Tolstoï. Mais de la même manière, on n'est pas non plus spécialement attaché particulièrement au répertoire russe plutôt qu'à un autre. Et voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, vu comment les choses ont tourné, la question se pose. Mais voilà, nous, on va pas changer notre nom de groupe pour autant, puisqu'il porte aussi toute une histoire et qui est la nôtre.
Et la culture va bien au-delà de tout ce qui se passe en ce moment, de toute façon. Si on parle de ce que le public australien va pouvoir expérimenter, vous avez prévu quoi justement pour l'Australie?
Alors, on apporte dans nos bagages de très grands chefs-d'œuvre de notre répertoire, du répertoire français, à commencer par le trio de Maurice Ravel, qui est vraiment une des grandes œuvres du répertoire français, mais du répertoire pour trio avec piano en général. C'est une très très grande réussite, et on est fiers de le présenter un peu partout. Une des spécificités du trio, c'est également de présenter des œuvres qui sont un peu moins données, donc à la fois le premier trio ici, le premier trio de Camille Saint-Saëns, dont Maurice Ravel s'est inspiré pour écrire son propre trio, et qui est une grande réussite également. C'est vraiment par moment vraiment un mécanisme d'horlogerie, et c'est dans la facture et l'écriture, c'est extrêmement précis, et nous on aime beaucoup ce trio, défendre ce trio. Le trio Tourina également, qui est de la musique extrêmement agréable à écouter, mais relativement peu donnée. Et Tourina montre le lien que pouvaient avoir les compositeurs à l'époque, entre les compositeurs espagnols et les compositeurs français. Il y avait vraiment beaucoup de respect et beaucoup d'influence. On pense évidemment à Carmen, hein. Et à l'inverse, plusieurs compositeurs espagnols venaient prendre les conseils à Paris de grands compositeurs français.
Quand on parle des endroits mythiques aussi, hein, l'Opéra de Sydney, Ça vous évoque quoi?
Disons que évidemment il y a cette architecture sublime, ce bâtiment qui est vraiment une des merveilles du monde contemporain. La location aussi sur la baie de Sydney, ça fait vraiment rêver. Il y a un côté bout du monde évidemment pour nous, qui est assez excitant. Puis voilà, par ailleurs, dans le choix que nous avons fait de faire de la musique de chambre au long cours avec les mêmes personnes, il y a cette chose aussi de créer un ensemble de souvenirs dans des lieux mythiques, en fait. Et jouer à l'Opéra de Sydney, c'est rajouter une étape de plus et puis un souvenir de plus dans un parcours qui nous a mené à la Cité Interdite de Pékin, à Wigmore Hall de Londres, au Conservatoire d'Amsterdam, à des très belles salles aux États-Unis, etc., ou en Amérique du Sud. Et c'est vrai que, moi, à titre personnel, j'ai la sensation d'avoir beaucoup de chance et avec cette tournée, je serais allé sur les 5 continents.
Mmh. Et cet opéra, il était sur votre liste, donc si je comprends bien, c'était vraiment quelque chose qui est mythique. Bon, nous, en Australie, on le prend peut-être un peu pour, on va dire en anglais, pour granted. Il est là, on l'adore, etc. Mais quand on parle sur le schéma d'une vie de musicien, ça reste quand même un des endroits à jouer, peut-être comme, je sais pas, l'Opéra de Paris, la salle Pleyel. Enfin, il y a plusieurs salles mythiques comme ça en France, mais il y a des salles mythiques au monde. L'Opéra de Sydney, on est une.
Assurément, et on peut vous assurer que quand on parle autour de nous, à la fois à nos amis musiciens et aux gens qui nous suivent sur les différents concerts, aux gens du public qui nous sont fidèles, le fait d'évoquer ce concert à l'Opéra de Sydney, on sent que c'est vraiment, ça représente, ce bâtiment représente beaucoup de choses pour les gens. Hein. Donc, nos amis musiciens nous envient.
Ouais, c'est marrant parce que c'est un peu ce que tout le monde. Vous avez la même réaction que pas mal d'artistes qui passent ici, où il y a pas mal d'envie d'autres musiciens. Donc on sent qu'il y a encore cet attrait, il y a l'attrait de cette salle qui est mythique à travers la planète en fait.
Oui, alors il y a cette chose-là. Ensuite, je me permets quand même de nuancer.
Allons-y.
Là, on n'est pas des mercenaires en recherche de cocher toutes les cases de notre liste de la carrière rêvée de musicien. C'est plutôt sur le chemin de musicien que ça se passe. Voilà, l'Opéra de Sydney aussi, je pense que c'est un peu un point de rencontre entre la musique qui s'y fait, qui résonne, la beauté d'un bâtiment dans la ville aussi. Il y a quelque chose de plus globalement, de qui se comprend comme l'art à l'intérieur de la ville, dans le fait de jouer là-bas. Donc je pense que c'est aussi une des choses qui nous touche dans le fait d'y aller.
C'est vrai qu'on va finir là-dessus, mais c'est un icône moderne. C'est un bâtiment qui au final n'est pas si vieux que ça et qui a su prendre une place à travers la planète. Et qu'un opéra, il n'y a pas tellement d'opéras dans le monde qui sont connus, on peut en nommer quelques-uns, mais il n'y a pas tellement. Et c'est vrai que c'est un bâtiment qui est emblématique à travers la planète. Est-ce qu'on peut revenir à la genèse de votre groupe? Vous nous avez parlé du nom, mais comment vous vous êtes rencontrés? Comment ça s'est fait entre vous?
En fait, Louis et moi avons une histoire d'amitié qui dure depuis, en fait, qui a commencé au lycée. Donc en France, le lycée commence quand on a 15 ans. J'imagine qu'en Australie, c'est pareil, je ne sais pas. Et donc, à l'issue de ce lycée, nous nous sommes un tout petit peu perdus de vue. Et puis finalement, quelques années plus tard, nous sommes l'idée a germé de faire de la musique ensemble, de manière très régulière. Et l'idée de fonder un trio, dont nous étions encore étudiants à cette époque. Et les choses se sont passées très, très vite, puisque nous avons intégré une formation absolument incroyable, qui est celle du quatuor Isaïe, quatuor à cordes en fait, au conservatoire au CRR de Paris, et pour une formation de 3 ans en fait. Donc est venu le temps des concours, etc., donc, dont un prix au concours de l'ARD de Munich, et qui a donc vraiment lancé notre parcours de chambriste au sein du trio Carignan. Voilà, donc finalement, ça fait presque 15 ans que cette histoire a commencé, avec quelques changements dans l'équipe, notamment avec l'arrivée de Julien dernièrement, qui nous réjouit énormément. Voilà.
Et on sent dans vos propos, il y a une certaine... vous êtes jeune, d'accord? Il y a une approche jeune de cette musique classique. Ça doit vous faire chaud au cœur de voir que... alors peut-être vous, c'est votre vie, mais que la musique qui est classique est aussi tellement encore vivante auprès des jeunes.
Alors, on ne peut pas le percevoir de la même façon partout dans le monde. Mais vous serez ravis de voir, évidemment, plein de jeunes dans le public australien. Non, mais bien sûr que cette musique a su trouver sa place par le passé et continuera à le faire, comme le grand théâtre de répertoire le fait. Mais c'est à nous aussi, musiciens, de continuer à transmettre ce répertoire, à continuer à rechercher de nouvelles choses dedans, et voilà, et puis à transmettre cette passion pour ce répertoire. On a aussi le désir de continuer, de participer à faire écrire la suite de cette histoire, c'est-à-dire à confronter de nouveaux compositeurs à cette formation-là, par le biais de commandes à des compositeurs qui sont bel et bien vivants.
D'accord, okay. Donc c'est le brin de modernité dont je parlais un petit peu au début. C'est que la musique classique, elle est vivante, mais vous ne regardez pas forcément qu'en arrière. Il y a aussi un regard vers l'avant avec des compositeurs actuels, contemporains.
C'est très important. C'est-à-dire que la musique écrite, la musique de répertoire, enfin la musique qui part d'un texte écrit, n'est pas pour autant une langue morte. Enfin, nous, vraiment, on souhaite qu'elle ne le soit pas. Donc, ça nous paraît très important de que les compositeurs d'aujourd'hui continuent à écrire pour cette formation, comme ils le font un peu plus pour le quatuor à cordes, mais il y a régulièrement des créations pour le répertoire de trio avec piano, et on est très attaché à ça. À la fois,
susciter de nouvelles pièces, mais également de continuer à faire vivre des pièces récentes. Voilà. Faut savoir, en fait, pour les auditeurs qui sont pas au courant de ça, pas mal de pièces de musique d'aujourd'hui sont créées une fois ou deux, et puis ensuite, la logique économique, enfin les conditions dans lesquelles elles se font, amènent le plus souvent à ce qu'elles soient plus données par la suite. Il y a de très grandes pièces qui ont été écrites au cours du XXe siècle et même plus récemment. Et donc nous, on aimerait bien les défendre. Voilà.
D'accord. Ok. Moi, je ne savais pas non plus. Donc c'est intéressant.
Je voulais rajouter par rapport à la question de la jeunesse, c'est que le faire vivre la musique classique, c'est très présent aussi chez les gens qui sont plus jeunes que nous. Nous, on le remarque avec nos étudiants dans les différents conservatoires dans lesquels on enseigne, qui sont de plus en plus nombreux, de plus en plus fervents et de plus en plus passionnés. Et donc, toute cette partie de transmission, c'est une chose qui est très importante aussi. Et on va avoir le plaisir de l'appliquer aussi en Australie. C'était très important pour nous, pour donner du sens à cette tournée, de pouvoir partager aussi un petit peu notre expérience dans ces répertoires-là qu'on aime tellement. Et donc, on aura la chance de rencontrer les étudiants du conservatoire de Sydney quand on sera sur place et de les faire un petit peu travailler en musique de chambre ce répertoire-là. Voilà, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur. Et la musique est un langage complètement international. Il se passe de mots, mais aussi, c'est vraiment l'occasion de rencontrer comment se fait la musique de l'autre côté de la planète, la même musique. Et je pense que c'est un beau message d'échange et de fraternité de se dire qu'on va pouvoir partager les mêmes langages alors qu'on vit à des dizaines de milliers de kilomètres les uns des autres.
Ouais, tout à fait, avec peut-être des barrières mentales qui ne sont pas au même endroit, parce que la culture n'est pas la même, parce que c'est ce qui peut vraiment être, enfin, ça fait grandir tout le monde, mais pour vous, ça peut être aussi un point de découvrir une nouvelle façon d'aborder certains morceaux, certaines pièces de musique.
Absolument.
C'était un vrai plaisir de vous parler. Pour avoir plus d'informations pour notre public, vous pouvez nous rappeler de votre site internet?
Oui, c'est www.triucareni.com.
D'accord. Toute l'information sera là et il y a toutes les infos sur votre venue en Australie. Merci d'avoir passé un peu de temps sur Radio SBS avec nous.
Merci beaucoup.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Sans connaître les raisons qui ont poussé cet homme à vivre dans une autre ville pour l'estime.
C'était un extrait de la chanson « Les Innocents » interprétée par un homme extraordinaire, sélection musicale sur SBS Audio. Voilà messieurs, dames, c'est déjà la fin de cette émission du dimanche 5 mai 2024. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je m'appelle Marianne Murat et comme d'habitude, j'ai été très heureuse de passer cette heure en votre compagnie. Je vous retrouve le week-end prochain, mais en attendant, votre prochain rendez-vous avec le programme en français, c'est mardi, puis jeudi, même fréquence, même heure. Et pour les dernières actualités, c'est le site de news de SBS, sbs.com.au/news. Passez un excellent dimanche, messieurs, dames, et puis très bon début de semaine. Au revoir.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.